VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est midi à Kinshasa. Au Cameroun, les hôpitaux sont affectés par un mot d'ordre de grève de médecins qui a été partiellement suivi hier à Yaoundé notamment. Et naturellement, ce sont les patients qui paient le prix de ces revendications du corps médical camerounais. Emmanuel Julintap est notre correspondant à Yaoundé.
Pendant trois jours, les services de santé dans les hôpitaux publics seront perturbés. Le secrétaire général du syndicat des médecins du Cameroun l'a annoncé, Dr Ndoudoumou, médecin syndicaliste.
Des carrières qui ne sont pas déjà bien définies, où on n'a pas de profil, où on a des salaires qui oscillent entre 105 000 et 234 000 francs par mois. Un peu pour donner une image, le nombre de césariennes que j'ai déjà faites dans l'obscurité. Parfois, vous n'avez pas de groupe électrogène, vous travaillez dans une zone où le courant est tout le temps coupé. Nous aimerions que le patient camerounais puisse avoir des soins de qualité, quelle que soit sa classe sociale.
Cependant, dans un hôpital comme celui de la Cité Verte à Yaoundé, les médecins ont vaqué normalement à leurs occupations. La directrice de l'hôpital nous autorise un tour des lieux. En compagnie de Parfait Noël Olomo, surveillant général à l'hôpital du district de la Cité Verte à Yaoundé.
Parmi les malades qui sont à l'hôpital, il y a les membres de nos familles. Donc il va de soi que si la grève elle est lancée, tout le monde va en pâtir. Ce n'est pas nous, mais c'est les malades qui vont en pâtir. Les gens vont mourir. Et vraiment, je crois que le Cameroun en a assez comme ça.
Toutefois, malgré leur présence au service, certains médecins sont pleins d'amertume. À cause des mauvaises conditions de vie et de travail, plus de 7000 médecins camerounais travaillent à l'étranger et quelques 2500 seulement exercent localement pour une population de plus de 21 millions d'habitants. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En RDC, Félix Tshisekedi est rentré lundi à Kinshasa. Après une mini-tournée à l'étranger, le président du rassemblement de l'opposition a été escorté de l'aéroport de N'Djili jusqu'au siège du parti UDPS à Limité. Il a promis dans un discours que le rassemblement va se battre jusqu'au bout pour la tenue des élections au Congo. On l'écoute au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous voulons donner une chance à la paix, parce que dans ce pays, on a été trop loin avec les abus. Vous savez qu'il aurait dû y avoir des élections en décembre dernier. Il n'y a pas eu d'élection parce qu'un seul individu est en train de chercher son positionnement. Nous avons eu la patience en cherchant à éviter la mort de nos compatriotes et en acceptant l'initiative des évêques d'aller à un dialogue qui allait nous permettre d'atterrir en douceur et d'ouvrir la voie de sortie. Une voie de sortie honorable à M. Joseph Kabila, mais malheureusement, il semble opérer plusieurs manœuvres, notamment celle de débauchage, en allant chercher du menu fouettin du rassemblement et d'essayer de les élever et faire croire que le rassemblement est divisé. Le rassemblement n'est pas divisé, le rassemblement est une force qui a la confiance de nos compatriotes et nous sommes là pour le dire et le démontrer.
L'opposant Étienne Tshisekedi. Au Niger, alors que la force régionale traque toujours les éléments djihadistes le long de la frontière entre ce pays et le Nigeria jusqu'au lac Tchad, un centre pour ex-combattants de Boko Haram a ouvert ses portes depuis décembre dernier à Difa. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, rencontre avec les repentis de Boko Haram. Reportage Nicolas Pino.
Un peu à l'écart de la route principale, derrière la section antiterroriste de Difa, trois bâtiments passeraient presque inaperçus, mais les fils barbelés qui les entourent et les militaires armés de Kalachnikov à l'entrée donnent le ton. Voici le centre de transition des repentis de Boko Haram. 150 personnes sont là, des ex-combattants en majorité et à l'écart leurs épouses et des enfants. Le centre a ouvert en décembre dernier et dans le bâtiment des hommes, quelques visages menaçants mais aussi des adolescents, pas franchement combattants. Ibrahim Malam Toura a été enlevé lorsqu'il avait 12 ans. Il a passé 2 ans à étudier le Coran version Boko Haram avant de pouvoir s'enfuir.
Un vendredi, mon père m'a demandé d'aller au champ et a dit qu'il me rejoindrait après la prière. 2 hommes en moto sont venus et m'ont kidnappé en disant que je risquais de devenir un délinquant.
Le Niger affirme que la victoire contre le groupe djihadiste ne peut pas se résoudre que par la voie militaire. Un centre permanent de déradicalisation doit ouvrir dans quelques semaines à Goudoumaria. Dandano Mahamoudou Lawali est le gouverneur de la région de Diffa.
C'est les efforts de l'État, c'est vraiment un financement étatique. C'est l'État qui prend tout en charge. Nous sommes en processus complexe qui va comprendre une administration, des dortoirs. Vraiment, c'est un complexe dans lequel on va procéder d'abord à une déradicalisation. Il faut les déradicaliser. Mais également, on va procéder à la formation fonctionnelle à l'intérêt des camps parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi. Mais après, il faut procéder à une réinsertion sociale.
Les 150 personnes qui s'entassent dans le centre de transition déménageront bientôt vers Goudoumaria, mais certaines ne demandent qu'à retrouver la liberté. Parmi elles, Fatima Ibrahim, 20 ans. Elle a été kidnappée il y a 4 ans dans la région de Maïdougouri, au Nigeria.
Moi, j'espère vite rentrer au Nigeria. J'ai été mariée de force à des combattants de Boko Haram et mes parents ne savent même pas que je suis là.
Beaucoup d'ex-combattants de Boko Haram nient leurs atrocités ou minimisent leur implication. Impossible de savoir qui dit la vérité. Madame Boukar Adam est un ancien enseignant ayant rallié Boko Haram. Il dit avoir été médecin pour le groupe djihadiste.
J'ai quitté Boko Haram parce qu'il y avait des dissensions. Le groupe de Shekau et celui de Mamanou se sont battus 6 fois. C'est une question d'idéologie. L'islam est une religion de paix. Un bon musulman n'a pas à tuer les gens.
Beaucoup de repentis de Boko Haram décrivent un mouvement sur le déclin. Mais il faudra encore de longues années pour défaire l'idéologie que les djihadistes ont semée dans la région. Et Nicolas Pinault depuis Diffa pour VOA Afrique.
Le Japon a entamé le retrait de ses casques bleus du Soudan du Sud alors que l'escalade de la violence continue de faire des morts et des déplacés dans ce pays. Les précisions, Michel Joseph.
Le contingent japonais de la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud était basé depuis 5 ans à Juba, la capitale. Ses 350 soldats aidaient surtout dans la construction d'infrastructures. Selon Daniel Dickinson, porte-parole de la mission, un premier groupe de 68 casques bleus japonais a quitté Juba lundi et les autres suivront en 2 groupes. Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Atheni Wek Atheni, s'est félicité de cette décision, affirmant que les autorités sud-soudanaises sont capables de contrôler la situation dans le pays. La violence qui a éclaté en 2013 suite à la décision du président sud-soudanais Salva Kiir de limoger son vice-président Riek Machar continue d'embraser le pays. Un accord de paix conclu en 2015 avait établi Machar dans ses fonctions, mais le conflit entre les deux hommes a conduit à de nouveaux affrontements armés en juillet dernier. Les troupes gouvernementales, comme les rebelles, sont accusées de sanglantes attaques contre les populations civiles. La Grande-Bretagne a qualifié cette situation de génocide. Même l'ONU ne s'est pas encore prononcée à ce sujet.
Jugement aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris d'un soldat français des forces spéciales soupçonné d'attouchement sexuel sur 2 filles franco-burkinabées de 3 et 5 ans en 2015 quand il était en mission au Burkina Faso. Sébastien L., âgé de 40 ans aujourd'hui, est aussi poursuivi pour l'enregistrement d'images à caractère pornographique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le vice-président américain en visite au Japon dans le cadre d'une tournée asiatique qu'il a menée auparavant en Corée du Sud. Mike Pence est à Tokyo pour réaffirmer l'importance de l'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis face à la menace nucléaire de Pyongyang, qui menace désormais de procéder à des tests de missiles chaque semaine. Le vice-président américain a réitéré l'engagement des États-Unis à assurer la sécurité du Japon conformément à l'alliance militaire qui unit les deux pays. Le principal parti d'opposition en Turquie, le CHP, va présenter mardi au Conseil électoral une demande d'annulation du référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, remporté de peu par ce dernier dimanche. La demande sera déposée aujourd'hui à 14h30, soit 11h30 GMT, a précisé le CHP d'obédience social-démocrate dans un communiqué. Dès l'annonce des résultats, les deux principaux partis de l'opposition, le CHP et le HDP, pro-kurdes, avaient dénoncé des manipulations lors du scrutin. Et puis, J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, dont le résultat semble toujours aussi indécis. Le centriste Emmanuel Macron fait deux déplacements en région parisienne aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, le héros de la gauche radicale, qui s'est hissé dans le quartier de tête des sondages, tient meeting dans le centre de la France et le conservateur François Fillon se rend à Lille, dans le nord de l'Hexagone. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.